When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle sexualité et société. Aujourd'hui, on parle de corps tatoué, corps de désir.
Ce papier, ta peau, cette encre et mon sang, j'appuie fort pour qu'il entre. Réponds-moi vite.
Pratique ancestrale dans les sociétés dites traditionnelles, en Orient, en Afrique, en Océanie. Le tatouage a, en Occident, été longtemps la marque des marges avant de devenir un ornement corporel largement partagé. Comment ce corps tatoué, lieu d'affirmation de soi, est un corps érotisé? Quel regard porter sur ces traces indélébiles que l'on cache ou que l'on dévoile? Quel désir sur ce corps tatoué, masculin ou féminin? Pourquoi porter un dessin érotique, voire pornographique, dans sa chair? David Le Breton est l'invité de cet épisode. Il est anthropologue, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, auteur de nombreux ouvrages sur le tatouage, dont signes d'identité, tatouage, piercing et autres marques corporelles. Première question à David Le Breton, depuis quand cette érotisation des corps tatoués?
Vous soulevez une question immense, parce qu'on peut dire d'abord que les marques corporelles sont inhérentes à la condition humaine, donc on les retrouve dès l'origine, dès les premiers humains. Alors on peut penser que la dimension érotique joue un rôle, sans doute, mais dans ce qu'on connaît, en tous les cas, du fait de l'ethnologie par exemple, les tatouages revêtent plein de significations simultanées. On associe souvent, par exemple, le tatouage au passage d'un âge à un autre, des marques de propitiation, être protégé de la maladie, être protégé du mauvais sort, être protégé de l'attaque des démons, etc. Ça peut être des marques qui viennent après une guérison, aussi les rites de fécondité. Hein. Donc, souvent, sur le corps des femmes, notamment, on inscrit des signes qui renvoient à la fécondité. Donc, on peut dire qu'ils ne sont pas très loin, en tous les cas, sinon de l'érotisme, du moins de la sexualité. Et puis, sans doute, un certain nombre de signes corporels renvoient également à une érotisation, à une accentuation du désir. Pour répondre d'ailleurs plus précisément à votre question, mais par rapport aux sociétés traditionnelles, l'un des mythes d'origine des îles Marquises autour du tatouage renvoie au fait qu'un dieu avait été délaissé par son épouse qui était allée voir d'autres dieux et qui manifestement se livrait à des aventures sexuelles assez larges. Et donc ce dieu va voir un sage qui lui explique que la manière pour lui de ramener sa femme, ce serait de tatouer son corps, de le rendre désirable. Le dieu va se faire tatouer et en effet, à partir de ce moment-là, toutes les femmes lui tombent dans les bras, dont son épouse qui revient très très vite à lui. Donc là, dans cette tradition du Pacifique, il y a un lien très étroit entre l'érotisation, entre le désir donc, et le tatouage.
Il y a encore 30 ans, 40 ans, dans les sociétés occidentales, se faire tatouer, c'était mal perçu. D'où vient, dans la société occidentale, cette érotisation du corps tatoué?
Alors, je dirais qu'elle est aussi très ancienne, parce que le tatouage va apparaître dans nos sociétés occidentales avec les marins du capitaine Cook. C'est à la fin du 18e. Et à ce moment-là, les marins, mais le capitaine Cook lui-même, dans son journal, il est absolument extasié. Il décrit avec admiration la beauté qui se dégage de ces hommes. Et à partir de là, un désir naît finalement. Le désir, c'est le désir de l'autre, hein, puisque vous êtes en pleine psychanalyse. Et donc, les marins, mais aussi les officiers de bord, hein, on ne peut pas dire que ce soit à ce moment-là uniquement une tradition populaire, les officiers de bord également vont être tellement fascinés qu'ils vont se livrer à l'ouvrage des tatoueurs insulaires. Et lorsque les bateaux vont rentrer dans les ports occidentaux, il y a une espèce de tache d'huile qui va se propager d'un port à un autre, parce que les marins vont être considérés justement visuellement comme prodigieusement attractif. Et il dégage une aura sexuelle, mais pas seulement une aura sexuelle, il dégage quelque chose qui est un peu hors du commun et qui font que des milliers d'autres hommes vont avoir envie de s'identifier à eux, de suivre le même chemin qu'eux. À l'époque, beaucoup moins de femmes, évidemment. Déjà d'emblée, on peut dire qu'il y a cette érotisation des corps dans une dimension quand même très populaire, parce que ce sont quand même les marins qui vont davantage diffuser ça dans les cabarets, etc. Et puis, les populations qui vont être les plus enclines à suivre ce modèle sont des populations marginales, hein, dans un premier temps. Il y a une volonté d'accroître sa puissance personnelle, hein, puisque le tatouage va être très vite associé à la virilité, à une virilisation donc des hommes, parce qu'à l'époque, évidemment, le tatouage fait très mal. Donc, pour se faire tatouer, il faut en avoir, entre guillemets. En tous les cas, il y a cette représentation que seuls des vrais hommes peuvent accepter de se faire tatouer tellement ça fait mal. Et d'ailleurs, il y a une chanson, je crois, d'Edith Piaf qui dit « Mon homme, c'est un vrai, c'est un tatoué hein, ». Comme s'il y avait vraiment une... Être un tatoué, c'est vraiment le signe de passage radical qu'on est un homme à part entière, avec une virilité forte, etc. Progressivement, donc, le tatouage va prendre, entre guillemets, dans la société américaine, va gagner la vieille Europe. À partir des années 80, disons, le tatouage devient vraiment un body art, c'est un art corporel, une manière d'esthétiser son corps, d'esthétiser sa présence, de se rendre désirable.
C'est quoi les racines pour le changement de ce regard ?
Lorsque votre corps est tatoué, ça cristallise une zone érotique, finalement, dans le corps. Toutes les personnes que j'ai pu interroger, par exemple, disent que c'est vraiment un lieu où elles aiment être caressées, être embrassées, etc. Donc, il y a une espèce de narcissisation de cette partie du corps. C'est un corps qui se détache, finalement, enfin, une partie du corps qui se détache de l'ensemble et qui est éminemment érotisée. D'abord, pour la personne elle-même, mais aussi pour les partenaires, puisque je crois que ça nous arrive à tous quand on est à côté de quelqu'un qui a les bras tatoués, etc. On a souvent envie, on a une espèce de pulsion, on voudrait passer sa main pour voir comment ça fait, quelle est la différence avec la peau normale, etc. Donc il y a une espèce d'attrait, un désir de porter la main sur la personne qui est tatouée. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de cristallisation de l'érotisme dans le tatouage, et d'autant plus qu'un certain nombre de garçons ou de filles vont jouer avec ça. Là, c'est le jeu du cacher, du montrer. Donc, évidemment, il y a les tatouages qu'on montre, qu'on affiche, on relève ses manches pour montrer qu'on a les bras complètement tatoués, ce qui fait qu'effectivement, ça va être une forme d'entrée en matière. C'est-à-dire, immanquablement, ces garçons ou ces filles vont être interpellés par d'autres qui disent bah, « Dis donc, t'as des beaux tatouages, fais-moi voir, mais qui est-ce qui t'a fait ça ?» etc. Bon, mais en même temps, il y a des tatouages qui sont cachés. Et ça contribue à l'érotisation. Je me souviens par exemple d'une jeune femme qui me disait « J'ai des tatouages dans le bas des reins et j'attends le moment où mon partenaire va les découvrir. Il va s'arrêter, il va se dire « Mais qu'est-ce que t'as ? Mais c'est extraordinaire, etc. » Et elle me disait « J'attends ça avec émotion, etc. » Donc on voit que là, c'est aussi une sorte de piment érotique qui vient rajouter au plaisir. Également une dimension de complicité, puisque là, ce sont des tatouages qu'on ne montre à personne, hormis les partenaires, ceux qui ont accès à l'intimité du corps, mais même pas aux amis, même pas aux parents, etc.
Je voulais vous interroger aussi sur le tatouage pornographique et le tatouage érotique. Pourquoi se faire tatouer une femme seins nus ? Pourquoi se faire tatouer une vulve ou un pénis sur le corps ?
En fait, c'est beaucoup plus compliqué de répondre à votre question. Oui, parce que chaque tatouage renvoie à une mythologie personnelle de la personne qui porte ce tatouage. Le même tatouage peut revêtir, en d'autres termes, des significations extrêmement différentes d'un individu à un autre. Donc, il ne faut pas forcément y voir une sorte de manifeste, entre guillemets. Ce tatouage pornographique ou érotique peut renvoyer à des souvenirs personnels, par exemple, de quelqu'un qui a perdu une amie, qui a perdu un ami, qui se souvient vient, je ne sais pas, de telle ou telle posture, ou en tous les cas de telle ou telle émotion, et qui veut avoir dans le corps, en quelque sorte, comme quand on dit de quelqu'un « je l'ai dans le corps ». Donc, c'est pas facile de répondre à votre question. En revanche, je ferai évidemment une distinction majeure entre pornographie et érotisme, parce que le fait de tatouer une femme les seins nus sur son corps, là, on n'est pas dans la pornographie, on est plutôt dans l'érotisme. Et ça peut être, je ne sais pas, j'imagine, pour un garçon qui a beaucoup de succès auprès des femmes, une manière de rappeler qu'il est un étalon, ou en tous les cas un modèle sexuel. Un tatouage pornographique, à mon avis, est davantage populaire. C'est vraiment, à mon avis, un tatouage entre mecs, entre guillemets, hein, pour se montrer entre mecs qu'on est des tombeurs, que les femmes, on se les envoie sans problème, etc. etc. Donc, c'est plus... Voilà, un tatouage érotique renvoie à davantage d'élaboration, de réflexion, de raffinement, etc. Quelque chose qui cristallise le désir, mais sans l'affirmer, quoi, sans le prendre au pied de la lettre, comme dans la pornographie. Où là, il n'y a plus de place à l'imaginaire, quoi.
Le regard sur le corps tatoué féminin ou le corps tatoué masculin est-il le même ?
Aujourd'hui, oui, parce que jusque dans les années 80-90, on peut dire que le tatouage était pratiquement masculin, populaire, de dissidence ou d'affirmation d'un entre-soi, en tous les cas masculin. Mais peu à peu, les femmes ont grignoté, entre guillemets, cette clientèle. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Bien sûr, les motifs, les graphismes ne sont pas tout à fait les mêmes. On voit que les garçons sont quand même davantage du côté d'une certaine virilisation entre guillemets de leur corps. Ce sont souvent des motifs qui renvoient à la force, au courage. Bon, je sais pas, des serpents, des dragons, des bracelets de force ou des trucs comme ça. Et des motifs plus féminins qui renvoient davantage à une recherche d'esthétisation, de douceur, de délicatesse, etc. Mais avec plein d'interpénétrations, des transfuges, donc des garçons qui vont chercher des motifs du côté du féminin et des filles qui vont chercher des motifs du côté du masculin.
Vu qu'on a parlé de l'évolution du regard sur le corps tatoué, et notamment le regard de désir sur ce corps tatoué, est-ce que vous pensez que d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être plus, ce regard va se modifier et le corps tatoué ne sera plus source de désir, objet de désir ?
J'ai oublié d'introduire une nuance et votre question me la rappelle. Bien entendu, dans les milieux populaires, il y avait cette attraction désirante, en quelque sorte, envers le tatouage. Et sans doute, un certain nombre de femmes, sans doute également d'hommes dans les mouvances gays, éprouvaient une très forte attraction pour ces hommes ou ces femmes de milieux populaires. C'était une manière, finalement, de s'encanailler. Mais dans le mainstream de la société, évidemment, le tatouage était perçu de manière extrêmement péjorative, comme une manière d'ensauvager même son corps, une manière de le rendre répulsif, etc. Donc on est dans l'ambivalence d'une certaine manière. Mais en même temps, l'ambivalence alimente également un désir de transgression, un désir de vivre des choses un peu hors du commun, etc. Ce qui faisait finalement ce côté très ambigu des tatouages masculins, voire féminins, fin du 19e, une grande partie du 20e siècle. Alors, que va-t-il se passer dans les décennies à venir? Le tatouage, évidemment, va se répandre de plus en plus. Il ne cesse de le faire. De toute façon, il gagne de plus en plus. J'ai même, à un moment donné, évoqué une sorte de fantasme de remplissage en évoquant le fait que si on poursuit dans la même logique, dans pas longtemps, les corps complètement nus deviendront des corps incroyablement désirables. Quand on dira, mais quoi, t'as aucun tatouage, aucun piercing même, aucun implant, mais c'est absolument extraordinaire. Ce sera une espèce de fantasme d'innocence, de pureté, etc. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que les corps tatoués arrêteront, ne susciteront plus aucun désir. Je pense que cette modification de la texture cutanée est toujours un appel au désir, un appel à porter la main, à toucher, à caresser, à voir ce que ça fait, et puis même à expérimenter sur soi pour voir comment je vais vivre avec un tatouage sur mon bras, sur mon ventre, sur mes cuisses, etc. Donc, je pense que l'érotisation du tatouage va demeurer. C'est, parce que c'est un petit peu comme si on se disait, bon, la caresse, comment la caresse peut-elle être toujours érotique alors que finalement, on se caresse ou on se touche des milliers de fois, des dizaines de fois par jour. Et bon, ça n'a jamais, évidemment, la caresse continue à être un élément d'érotisation ou d'amour. Et de la même manière, à mon avis, le tatouage continuera à être un motif de désir, même s'il est extraordinairement diffusé.
Merci à David Le Breton pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, nous évaluer avec des petites étoiles et nous envoyer des idées, des missions, des commentaires, des critiques aussi à audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.